êtes à l'écoute du studio Kalangu. Le programme français se poursuit avec le journal présenté par Reylat Soumana. Au sommaire, intronisation du 22e sultan de l'Aïr qui a eu lieu ce matin à Agadez. Des milliers de spectateurs venus de tout le Niger et d'ailleurs y ont assisté. Vous suivrez son portrait dans cette édition. À Diffa, des combattants de Boko Haram de nationalité nigérienne se sont rendus hier aux autorités régionales. Le gouverneur de la région de Diffa nous donne plus de détails sur la question. Dans la partie magazine, nous retournerons à Agadez pour l'intronisation du sultan Oumarou Ibrahim Oumarou, riche en rituels traditionnels. C'est le volet reportage de ce soir avec notre envoyé spécial. Bonsoir à tous. Intronisation aujourd'hui du sultan d'Agadez. La cérémonie s'est déroulée ce matin devant des milliers de spectateurs dans la pure tradition. Moussa Mamman, notre correspondant d'Agadez, nous fait le portrait de celui qui en est le titulaire.
Oumarou Ibrahim Oumarou est né le 7 octobre 1966 à Agadez. Il est le fils de Ibrahim Oumarou et est marié à deux épouses, Hajia Reke Aboubakar et Hajia Mariama Moussa. Il a fait ses études primaires et secondaires à Agadez, puis après son admission au BPC en 1988, a fréquenté l'école normale d'instituteurs de Tawa en 1989. Il a ensuite enseigné à l'école primaire centre d'Agadez de 1998 à 2004. Il est élu conseiller municipal de la commune urbain d'Agadez en 2004, puis deuxième adjoint au maire de la commune urbaine d'Agadez de 2011 à 2012. Après le décès de son père le 21 février 2012, c'est par consensus familial que Oumarou Ibrahim Oumarou a été désigné 52e sultan de l'Aïr le 15 mai 2012. Il a participé à des voyages d'études dans le cadre de l'intercommunalité à Istanbul, en Turquie en 2007 et 2011.
Des éléments de Boko Haram se sont rendus hier aux autorités régionales de Diffa. Ces ex-combattants, tous de nationalité nigérienne, ont été installés dans une cité de transit. C'est la première fois que des membres de Boko Haram se rendent aux autorités. Plus de précisions avec le gouverneur de Diffa, Lawali Dandano.
C'est vraiment une situation qui est connue dans toutes les guerres. Et au final, généralement, il y a des repentis qui se rendent. Et ça, c'est de la recherche de la paix de façon globale. Donc nous avons entamé cette procédure au niveau de la région de Diffa parce que nous avons compris que les forces armées, c'est vrai, ils ont fait leur travail, mais on ne peut pas arrêter une guerre seulement par les armes. Donc nous, au niveau de l'autorité civile, nous avons tendu la main. Tous ceux qui se sentent capables de revenir à la raison, à la République, nous allons les accueillir. C'est des citoyens nigériens qui se sont trompés à un moment. Et on va gérer ça. Pour le moment, il y a 13 qui se sont rendus, tous des Nigériens. Donc, ils sont là.
C'est des hommes.
C'est des hommes. Et nous les avons accueillis dans une maison, juste pour le débriefing. Parce que quand les gens se rendent, il faut les débriefer, il faut les identifier. Et c'est ce qu'on appelle un camp de transit. Et juste après, on va les amener dans un camp pour les repentir.
C'était le gouverneur de la région de Diffa, propos recueillis par notre correspondant Adamba Boukarna. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, séjourne depuis hier en Belgique sur invitation de la Commission et de l'Union européenne. En marge du sommet des chefs d'État et gouvernement européens qui se déroule aujourd'hui à Bruxelles, plusieurs rencontres ont été prévues avec le président de la République et les hauts responsables de l'Union européenne sur les questions sécuritaires, migratoires et de développement. L'Union européenne vient d'ailleurs d'annoncer une forte baisse du flux de migrants passant par le Niger. Précision avec Habibou Garba.
Au Niger, le nombre de personnes qui traversent les déserts est tombé de 70 000 en mai à 1500 en novembre, selon des données rendues publiques par l'Union européenne. En outre, 102 passeurs ont été déférés devant les tribunaux et 95 véhicules ont été saisis. 4430 migrants en situation irrégulière ont été rapatriés avec l'aide de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Ce constat est assorti par l'Union européenne des promesses d'aide. Selon Neven Mimika, commissaire européenne chargé de la coopération internationale et le développement, le Niger bénéficiera d'un appui financier d'un montant d'environ plus de 439 milliards de francs CFA. Le Niger bénéficiera également de financements du fonds fiduciaire pour un montant total de 392 millions de francs CFA en 2016. Objectif, lutter contre le trafic de la traite des êtres humains. Il s'agit aussi d'appuyer les secteurs de la justice, de la sécurité et de la gestion des frontières au Niger.
La Banque africaine de développement BAD, au cours des séances du Conseil d'administration du 9 et 13 décembre 2016, a approuvé un financement d'environ 43 milliards de francs CFA pour appuyer le projet d'électrification rurale, périurbaine et urbaine du Niger. 28 milliards de francs CFA, dont un prêt de 20 milliards et un don de 8 milliards, vont être débloqués pour renforcer l'accès à Internet haut débit. La BAD a aussi signé un accord de don de 625 milliards de francs CFA avec le ministère du Plan et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, pour soutenir les populations déplacées de la région de Difa. Le Code minier du Niger, dans son article 95, stipule que 85% des recettes minières constituées par la redevance minière et les autres taxes, outre les ristournes des agents du ministère des Finances et des Mines, sont destinées au budget national. Les 15% sont destinés au budget des communes de la région concernée pour le financement du développement local. Comment se présente aujourd'hui la situation? Gungu Mahaman Dantani a joint ce matin Ramar Ella Toufet, membre de la coordination de la société civile d'Agadez. Nous l'écoutons.
La redevance, elle a été créée par une loi en 2006 et le premier versement a eu lieu en 2007. C'est vrai qu'il y a des arriérés, ce n'est pas tous les ans que l'État verse de dû aux collectivités. À partir de l'année où il y a eu le coup d'État de Salih Djoubou, donc c'est là que les arriérés ont commencé. Il n'y a pas eu de versement. En 2010, aujourd'hui, on estime à environ 7 à 10 milliards de francs CFA pour la région d'Agadez. Ce qu'il faut considérer, à partir du moment où c'est quelque chose qui est dit aux collectivités, c'est quelque chose qui est dit à l'État, est-ce que l'État considère que c'est des arriérés ou bien c'est l'État qui s'est mangé lui-même? Parce que toute la question est là.
Différents maires des communes de cette région sont venus à Niamey pour en parler de la question. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Nous aussi, on a appris la même chose, mais nous n'avons pas fait de compte-rendu.
Le prix des volailles est à la baisse à Niamey, mais pourtant le marché est plutôt morose ces jours-ci. Notre reporter Moutari Mahamadou s'est rendu dans différents lieux de vente où il a pu constater le pessimisme des marchands. Écoutons ce vendeur qui ne cache pas les difficultés qu'il rencontre.
Je vends de la volaille, mais la vente est morose. Quel que soit le bas prix proposé, ça ne s'achète pas. Il y a des vendeurs qui n'arrivent même pas à vendre un seul poulet. Faire une comparaison de la situation d'aujourd'hui et avant, les choses ne sont pas les mêmes. Tenez, avant, nous achetons en gros l'unité à 2250 francs. Mais aujourd'hui, même à 1500, nous n'achetons pas. D'ailleurs, la pintade est même plus moins chère. Les prix sont variés. Il y a pour 1500, pour 2000. Quand c'est très très cher, ça ne dépasse pas 2500. C'est le temps. Nous n'avons jamais connu cette situation de sécheresse financière. Cela fait 30 ans que j'exerce cette activité. Mais je n'ai jamais connu une telle situation. Les acheteurs, comment ils vont venir? Ont-ils de l'argent? Même si tu as besoin. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras rien faire. Parfois, les volailles meurent et nous les jetons. Si je te dis le nombre de volailles que j'ai perdu, tu vas même dire que je mens. Ça ne marche pas. Nous ne comprenons rien. Nous sommes abasourdis.
Agissons ensemble pour lutter contre la pneumonie. Tel est le thème cette année de la Journée mondiale de la pneumonie célébrée au Niger. Qu'est-ce que la pneumonie? Pourquoi le choix de ce thème? Explication avec Dr Maman Sani, médecin-chef du district sanitaire Niamey 1, au micro de Laurot Ibrahim Gadou.
C'est une infection qui touche le poumon. Le poumon, c'est des organes respiratoires de l'homme qui sont logés au niveau de la cage thoracique, si vous voulez, au niveau de la poitrine. Cette infection peut être causée par une bactérie ou un virus. Quand on dit d'agir ensemble pour lutter contre la pneumonie, déjà il faut retenir que la pneumonie est l'une des causes de morbidité et de mortalité, c'est-à-dire l'une des causes des maladies, mais aussi des décès dans ces pays. En tout cas, l'une des premières causes, selon les statistiques, en tout cas chez les enfants, c'est même la deuxième cause. Donc cela veut dire que quand on agit ensemble pour lutter contre ça, ça aura un effet, pour ne pas dire un impact, n'est-ce pas, sur la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire sur la condition de vie, le mode de vie. de vie et l'amélioration en un mot de la survie de la population nigérienne, ce qui va nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs assignés par la communauté internationale, c'est-à-dire les objectifs du développement durable.
Aujourd'hui, 15 décembre 2016, c'est l'anniversaire de la mort de Manu Dayak, ancien leader de la rébellion Touareg CRA, coordination de résistance armée qui regroupe à sa création toutes les unités de la rébellion Touareg du Niger. Son portrait avec Tarnan Foudé Ahmed.
Né en 1949 dans la vallée de Tiden, au nord d'Agadez, Manu Dayak est Touareg, issu de la tribu des Iforas, originaire du Mali voisin. Il a fait ses études successivement à Agadez, à New York et Indianapolis aux États-Unis d'Amérique et à Paris en France en 1973. De retour au Niger dans les années 80, Manu Dayak devient guide dans les déserts et salarié d'une agence française de voyage avant de créer Temet Voyage, sa propre agence de tourisme. En janvier 1986, il participe au rallye Paris-Alger-Dakar avec Thierry Sabine, le fondateur de cette compétition. Dans les années 1990, il devient le leader de la coordination des résistances armées qui regroupe à sa création toutes les unités de la rébellion Touareg du Niger. Le 15 décembre 1995, en vue des négociations dont le gouvernement français de l'époque assure la médiation, Manu Dayak doit rencontrer le président nigérien Mahamat Ousmane et embarque à bord d'un avion en compagnie d'un journaliste français, Hubert Lassé, et des autres chefs de la rébellion Touareg, dont Hamad Ahmad Akalou et Yahya Woulwoul. L'avion s'écrase juste après le décollage. Il n'y a pas de survivants. Cet accident tragique va contribuer à forger la légende de Manu Dayak, l'homme qui a fait connaître au monde les revendications du peuple Touareg.
La journée d'aujourd'hui marque la fin des présentations des thèses par les doctorants à l'université Abdou Momouni de Niamey. Des exposés sont jugés positifs par l'ensemble des doctorants car ayant permis à ces derniers de voir les manquements de leur thèse. Voici les explications du délégué des doctorants Mustapha Meidawa au micro de Habibou Garba.
Vraiment, tout s'est très bien passé. Les doctorants ont été très, très actifs dans leur communication avec un débat vraiment très, très, très dense, très enrichissant, parce que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Voilà. Vraiment, c'est très satisfaisant. Et ils ont beaucoup apprécié et ça les a aidés encore à beaucoup arranger leurs travaux. Et je crois que c'est ça l'objectif de ces séminaires-là. Présenter les travaux, s'il y a des incorrections, amener des appréciations par les encadreurs et les enseignants et maintenant apporter un plus au niveau des travaux. J'espère que pour l'année prochaine, ça sera aussi très, très actif en termes de participation. On n'a vraiment aucun incident. Tout se passe bien. Et d'ici le soir, les travaux vont terminer.
Sport, football en bref. Dans le cadre de la troisième journée du championnat national, première division phase aller, deux matchs ont été disputés hier, Nigelec face à Kokana et Olympique contre Urana. Au terme de ces deux rencontres, aucun but n'a été marqué. Pour le samedi 17 décembre, trois matchs sont prévus. À Dosso, Tagour rencontrera Sahel Sporting Club de Niamey. Racine affrontera l'AS Police et l'AS Garde Nationale sera face à Jean Gorzo. Toutes ces deux rencontres se dérouleront à Niamey. À présent, la partie magazine de cette édition, la 52e cérémonie d'intronisation du sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, a été intronisée ce matin à 9h au palais du sultan, en présence de nombreux sultans et chefs de canton venus de tout le Niger et du Nigeria voisin. Parmi eux, Aboubakar Sanda, le sultan de Zender et celui du Makoy. Une cérémonie marquée par des rituels traditionnels très riches. Notre reporter à Agadez a également été de la partie. Voici son reportage.
Le palais du sultanat était bondé de monde. Chefs de canton, chefs traditionnels, sultans, hommes politiques, autorités, journalistes, tous sont venus des quatre coins du monde pour assister à l'intronisation du 52e sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Il succède ainsi à son père, El Hadji Ibrahim Oumarou, qui a fait environ 50 ans de règne. Instituteur de formation, le nouveau sultan de l'Aïr a été choisi par consensus familial pour diriger les 19 groupements qui constitue ce sultanat, nous a confié Al-Bashir Aboubakar, l'oncle de Oumarou Ibrahim Oumarou, membre de la cour du sultanat de l'Aïr.
C'est un homme patient, c'est un homme calme, c'est un homme serein, vous voyez, c'est un homme licite. C'est très difficile de le voir en situation de colère. Il sait se maîtriser. Et je sais que c'est vraiment l'homme qu'il faut à la tête de ce sultanat.
Pour Moutari Moussa, chef de canton de Miria, cette intronisation à laquelle participe la jeunesse est très riche en rituels traditionnels.
Oui, c'est ça la différence de ce que nous, dans les pays Hausa, nous, on vient seulement, on porte le turban. En dehors du port du turban, bon, il y a la cavalerie. Bon, nous, ça se limite à ces deux grandes manifestations. Ici, on a vu vraiment un rythme traditionnel très différent de ce qui existe dans les pays Hausa. Très, très varié. Ce qui différencie la culture touareg et de la culture sédentaire, disons, des gens du Sud.
Donc, ce grand événement que vit la ville d'Agadez constitue lieu d'espoir pour les habitants de la région, selon Djibril Kairou Ousmane, ex-député qui participe pour la première fois à une cérémonie d'intronisation.
Vraiment, c'est l'espoir qu'on souhaite. Les gens qui sont en train de dire qu'il y a sécurité, insécurité partout, aujourd'hui ils ont vu le concret. On pense au retour du tourisme, parce que le tourisme c'est la principale activité au niveau d'Agadez. Vraiment, on souhaite que le tourisme revienne. C'est la principale activité au niveau d'Agadez. Que les gens en profitent beaucoup.
Pour rappel, le sultanat de l'Aïr a été fondé vers 1405. Diallo Mariama Kenda, depuis Agadez, pour le studio Kalangou.
C'est sur cette intronisation que prend fin cette édition. Notre programme en français continue avec le forum présenté par Hamadou Momouni.